Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Bonjour tout le monde.
Donc ça nous fait plaisir de vous revoir. Donc aujourd'hui nous allons aborder une question importante, les services publics sur notre département. Depuis quelques jours, beaucoup de maires se plaignent du comportement de la direction départementale de la Poste qui vise à supprimer des plages horaires et voire fermer certains bureaux de poste. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus Alain ?
Ben oui, de toute façon, j'ai été invité en tant que président des maires ruraux à une manifestation à Saint-Léon-sur-Lisle, que tu connais bien, Gérard. Et c'est vrai que j'ai appris, et parce que ça a été bien expliqué, que les bureaux de poste centraux aujourd'hui vont être le souhait du groupe La Poste, c'est de passer d'un horaire de 17h50 à 12h. Ça veut dire que ces bureaux de poste ne seront ouverts que 4 matinées par semaine, en supprimant bien sûr la matinée principale qui était le samedi matin. Et le samedi matin, dans ces villes comme Saint-Léon, comme Sigoulès, comme Tocane, pas mal de villes un peu cossues quoi, au nombre d'habitants, ont souvent des marchés. Et donc, c'est l'occasion pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite, à venir à la poste chercher leur chèque, envoyer leur courrier ou tout pour les besoins de la poste. Et en plus, ce que préconise donc le groupe La Poste, c'est encore la suppression d'un service public de plus. C'est-à-dire que la seule solution pour eux, c'est l'ouverture d'une agence postale. Donc c'est aux frais du contribuable et aux frais de la commune. Donc nous, on n'est pas d'accord, les élus, et on a réagi vivement par rapport à cette proposition du groupe La Poste.
Alors pour un petit peu plus de précision au niveau de nos auditeurs, parce que pour eux, tiens, il y a une agence postale dans la mairie, ça peut être toujours intéressant. Et pourquoi les communes, d'une manière générale, refusent l'agence postale dans leurs locaux?
Alors, toutes ne l'ont pas refusé, puisqu'il en existe déjà. Il en existe déjà, mais d'abord, le personnel, il est communal, donc c'est la mairie qui paye. Et puis, l'agence postale est prise à la charge totale du contribuable, malgré qu'il y ait une certaine aide du groupe La Poste, mais il est largement insuffisant. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que le groupe La Poste, à l'heure actuelle, a dispensé de à peu près 10 à 12 services dans les bureaux de poste. Or, dans les agences postales, il en restera 3 ou 4. Donc, c'était largement insuffisant, et c'est pour ça qu'on est mécontents.
Pour ta part, Brigitte, ce n'est pas une agence postale que tu as sur ta commune, mais
un point poste.
Un point poste.
Alors, le point poste, chez nous, ça a été confié à un restaurateur il y a plus de 10 ans, quand on a fermé la poste à Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Le maire existant le maire de l'époque avait négocié avec le restaurateur du coin une ouverture d'une agence postale, c'est-à-dire d'un point poste, dans lequel il pouvait retirer une petite somme d'argent, le plafonner, envoyer du courrier, recevoir des colis. Sauf que ça a vite donné ses limites parce que le commerçant est obligé aussi de fermer, il n'a pas les mêmes horaires que la poste. Et justement, là récemment, la restauratrice en question a reçu une lettre recommandée de la poste lui indiquant que le contrat ne serait pas renouvelé, qu'il arrivait à échéance et que c'était rédhibitoire que le point poste fermait sur ma commune. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler avec la poste, puisqu'on a eu différentes réunions aussi avec la poste. Et la Poste m'engageait à faire une agence postale, une agence communale, c'est-à-dire aux frais de la princesse pour eux, hein, parce que non seulement ils ferment la Poste, on s'est rebellé à l'époque, parce qu'on ne voulait pas qu'elle ferme, on a essayé de faire marcher de tout, mais ils nous ont eu à l'usure, c'est-à-dire qu'au départ, l'agence était ouverte à ses horaires normaux. Un jour, ben, elle fermait parce qu'il n'y avait pas de personnel et puis pas remplacé. Au moment de l'été, ben, il n'y avait pas de personnel de changement, donc elle était fermée pendant les 3 semaines. Et puis à la réouverture, elle n'était plus ouverte que la moitié du temps. Et puis petit à petit, ben, on nous a fermés, faute de moyens, faute de personnel, alors qu'ils avaient les locaux gratis et tout aux frais de la princesse. Parce que les locaux de la poste, pour moi, chez moi, c'était un local communal. Hein, donc à un moment... Et puis ils nous ont mis donc ce point poste. Voilà, ça a été... puis finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas et qu'ils ne veulent pas renouveler. Donc, ils incitent les gens à faire des agences, enfin les gens, les mairies à faire des agences.
Ah, tant qu'ils y sont, Brigitte, s'il n'y a pas de boucher, tu n'as qu'à confier à ton restaurateur une boucherie. En même temps, s'il n'y a pas de paysagiste, ils n'ont qu'à aller tailler des haies. Et pourquoi pas, en plus, faire une agence d'école. Pourquoi ton restaurateur ne ferait pas l'école aux enfants pendant son travail?
Donc, la poste fait ça aux frais de la princesse.
Donc, que ça soit pour les particuliers, les commerçants, pour les communes, ce qui intéresse la Poste, c'est, pour être clair pour nos auditeurs, c'est avoir le travail fait, mais payé par,
par le
commerçant.
au frais de la princesse.
Au frais de la princesse, comme tu l'as dit. Je crois que c'est un exemple. Bon, sur Saint-Léon, ils avaient donné les chiffres. C'était parlant. Ils considéraient qu'il y avait environ, sur le dos de poste de Saint-Léon, entre 35 et 40 personnes qui passaient par jour, ce qui est quand même...
C'est pas mal pour une commune.
Ce qui est pas mal. Et donc, elle travaillait 3 heures et quelques. Et sur ces 3 heures, en gros, la personne qui était au guichet ne travaillait que 14 minutes par heure.
Ils avaient calculé ça.
Eux, ils avaient calculé ça. On ne sait pas quoi.
Comment?
On sait pas comment.
Alors, on sait que c'est toujours le fric.
C'est à partir des trucs informatiques. Donc, mais tout ce qui est avant et après l'action n'était pas compté. Et donc, ce qu'ils proposent à Saint-Léon, c'est de dire voilà, nous, on vous paye que le quart d'heure. C'est-à-dire que les 3/4 d'heure de présence de l'employé communal, ben, c'est la commune qui le paye. Ouais. Donc vous voyez le coût que ça peut coûter pour une commune. Je crois que c'est ça qui est important de
les expliquer. Je voulais quand même spécifier sur le point poste. Le commerçant en question, le restaurateur, avait une indemnité versée de la poste de 100 et quelques euros par mois. Je veux dire, voilà, c'était pas non plus... je vais pas dire que ça soit énormément... beaucoup, mais par rapport au service rendu, de toute façon, voilà, quoi. Mais bon, maintenant, il n'y en aura plus. Donc,
Et le pire dans tout ça, c'est que les gens oublient les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, l'État vient de donner dans le plan de relance 66 millions d'euros au groupe La Poste.
Ouais. Mais on nous annonce beaucoup de plans de relance avec des sommes extraordinaires, mais nous, le plan de relance, au niveau des communes, on ne voit rien. Je veux dire, tu peux relancer tout ce que tu veux, nous, on n'a pas de fric. Alors, je me demande comment ils relancent.
Voilà.
Parce que les effets d'annonce, il y en a. Hein. Donc, sur les radios, à la télé, partout, tu as les plans de relance. Nous, quand on veut demander quelque chose, tout ce qu'on demande, ce n'est pas cumulable avec les dotations, ce n'est pas cumulable avec ci, avec ça. Total, on n'a rien. Donc, à un moment, à force de dire qu'on a de l'argent, les gens pensent qu'on peut relancer, on ne relance rien du tout.
Bien au contraire, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que d'abord, les plans de rigueur. Et puis aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que les communes, on est en train de nous enlever tous nos revenus. C'est comme, par exemple, le plan de rigueur. Moi, j'ai fait sur ma commune de 350 habitants. J'ai été amputé entre 2015 et 2020. On m'a amputé 40% de mon budget de l'État, que l'État me donnait. 40%, c'est pas rien. Si je caricature, c'est comme si je disais, un patron disait à son employé, eh bien, à partir de demain, je vais te donner que 60% de ton salaire, les 40%, c'est dans le plan de rigueur. C'est exactement ce qui nous arrive. Et non seulement ça, avec la suppression de la taxe d'habitation, c'était un levier qui nous permettait d'avoir une recette supplémentaire pour faire vivre la commune et donc pour faire des services. Cette recette, on ne l'a plus. On est dépendant de l'État qui va nous le compenser, mais déjà, on sait déjà qu'il est moitié compensé, puisque l'année référence sera l'année 2017. Ouais. Et 2017, ceux qui ont augmenté depuis 2017, on le fait régulièrement dans les communes, d'augmenter les taxes d'habitation ou toutes les taxes suivant l'inflation. Et puis depuis 2017, c'est encore un deuxième plan de rigueur qui nous tombe dessus. Donc ça suffit, il faut l'expliquer aux gens. Et il faut expliquer que si aujourd'hui il y a des communes qui montent leurs taxes, c'est par nécessité, ouais, parce que l'État remplit plus son rôle.
Alors je voulais spécifier qu'une commune qui veut faire des travaux, elle demande des aides, elle peut ouvrir droit à des aides de l'État, des aides du département, sauf qu'il faut qu'elle ait un autofinancement. Si elle n'a pas un autofinancement, elle ne peut pas lancer des projets. Et c'est pareil pour tout. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas... On prête qu'aux riches, hein. Si vous n'avez pas un peu d'argent pour demander des aides, la somme de base pour vous aider, 25% du département ou 25% de l'État, ça fait 50%. Il faut qu'on ait un autofinancement dans les communes de 50%. Donc à un moment, si on n'a pas de, on n'a pas d'argent qui rentre, on ne peut rien faire. Donc ils peuvent nous dire qu'on a des aides, qu'on a tout ce qu'on veut. Si on n'a pas l'autofinancement de départ, on ne peut rien faire. Donc,
D'autant plus, et là, l'association des maires ruraux, on est en train de jouer un rôle. Ça fait d'autres fois que je le dis au préfet, ça fait plusieurs fois que je le dis au niveau national, et le niveau national a bien pris le relais là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on a deux sortes d'aides. On a la DSIL et la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Aujourd'hui, pourquoi les communes, avec tout ce qu'on nous a imputé en revenus, ne peuvent plus, justement, comme le dit Brigitte, subvenir à leur part à payer? Pourquoi? Parce que la DETR, enfin, quand on demande une aide, le département, bon, en donne à tout le monde, c'est-à-dire c'est plus ou moins du saupoudrage, et une commune peut espérer 35%, mais pas plus. Donc ça veut dire qu'avec 35%, si elle va chercher, allez, disons, 20% de plus, soit une dotation de ruralité par le département, soit par une aide de la région, au bas mot, comme dit Brigitte, elle va arriver au grand maximum à 60%. Les 40% qui restent, la commune n'est plus à même de le payer, donc le projet tombe à l'eau. Et on a des préfets qui viennent nous dire que les projets se font pas, les gens ont des projets, mais ils ne les font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Et le pire, c'est qu'il y a des fonds, ils repartent à l'Europe, ils repartent au niveau national, c'est-à-dire tous les fonds qui ne sont pas consommés dans l'année qui est en cours repartent, et on nous les ampute, ils ne sont pas cumulables l'année d'après. C'est-à-dire que le préfet sait déjà qu'il va rendre de l'argent au niveau de l'État, qu'on va perdre au niveau du département. Et ça, c'est grave, parce qu'il ne veut pas nous en donner, s'il est plafonné à 25%, il ne veut pas donner 35%. Donc à un moment... Il va falloir qu'on enlève un peu de rigidité dans ce système. Et puis tout à l'heure, tu parlais du plan DSIL, voilà, qui est un plan d'aide aussi pour relancer un peu l'économie. Eh bien, il n'est pas cumulable avec la DETR, avec les dotations normaux.
Si,
normales.
Elle est cumulable.
Ah, ben, il y a des départements qui le sont, voilà, mais on te dit qu'ils ne l'ont pas.
Il y a la loi.
Moi, j'ai posé la question ici.
Tu as raison, Brigitte. Il y a la loi qui impose, et ça, c'est, je le tiens de Jacqueline Gourault, la ministre, l'État a autorisé toutes les départements, tous les préfets de cumuler.
Ouais.
Or, il y a des départements et la Dordogne en fait partie, où il y a quelques cumuls, mais ils sont très rares.
Voilà, parce que moi...
T'as raison.
Voilà. Et donc j'ai posé la question à M. Perrault, au département, l'autre jour, quand il est venu dans mon canton. Je lui ai posé la question, j'ai dit qu'il faudrait qu'il appuie la demande des maires de cumuler ce DSIL avec la DETR pour qu'on puisse bénéficier d'une plus grande part, voilà, pour diminuer notre autofinancement.
Alors ça, c'est remonté. Je l'ai dit, moi, en tant que président. La MRF l'a demandé.
Je vais revenir sur la Poste.
C'est un sujet important. On a dévié, mais c'est intéressant.
Oui, non, mais c'est bon. On avait prévu d'en parler, mais bon, c'est venu plutôt sur la table. Je vais revenir sur la Poste. Que fait aujourd'hui l'association des maires ruraux pour aider les maires, et quelles actions ils proposent dans les jours et les semaines à venir pour défendre les bureaux de poste?
Alors, moi, personnellement, étant donné maintenant que je suis référent de la Nouvelle-Aquitaine au niveau de la MRF, j'ai pu, lors d'un débat avec...
Association des maires ruraux.
Des maires ruraux, oui, exact. c'est un lapsus. J'ai eu l'occasion, dans un débat qui s'appelle Café de campagne, de croiser le nouveau secrétaire d'État à la ruralité, qui d'ailleurs a été nommé grâce à nous, c'était la première fois que ça arrivait, Joël Giraud. Donc je l'ai eu en direct, j'ai posé deux questions. Et la première question, je l'ai alerté sur ce qui se passait en Dordogne. Il m'a demandé de lui envoyer un retour, c'est-à-dire un courrier me relatant ce qui se passait, de me donner le nom de la responsable, qui est la déléguée territoriale Corrèze Dordogne, qui met ça en place, et qu'il allait l'appeler personnellement. Bon, ça, c'est ce courrier est parti il y a deux jours. Donc maintenant, j'attends le retour du ministre, parce que le ministre, bien sûr, va me répondre et va nous répondre au niveau de la Dordogne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'association des maires ruraux s'inquiète du sujet et regarde ce qui se passe dans les autres départements. Et il est bien évident que les départements ruraux seront touchés aussi. Donc l'association des maires ruraux va intervenir par rapport à ça, au niveau aussi de Jacqueline Gourault, qui est la ministre des Territoires.
Donc actuellement aussi, j'ai vu que un certain nombre de communes et de communautés de communes ont pris des délibérations dans ce sens-là pour conforter votre combat. Tu peux préciser peut-être quelques points. Je crois que Bergerac, ils ont pris des décisions.
Alors, des décisions ont été prises aussi. On a fait suivre, bien sûr. Donc déjà, il y a des communes. On a envoyé un courrier à tous les maires concernés, c'est-à-dire de nous faire remonter quels étaient les bureaux de poste concernés. Donc moi, j'ai pas mal de retours déjà. J'ai Tocane-Saint-Apre, j'ai Gardonne, j'ai La Mauzie-Saint-Martin, j'ai Saint-Léon-sur-Lisle, j'ai Sigoulès, Saint-Astier. Enfin, il y a tout un panel qui sont remontés, bien sûr. Et nous allons demander à tous les maires de prendre des délibérations. Alors on va leur envoyer un modèle de délibération. On a commencé à le faire dans toutes les mairies pour que toutes ces mairies prennent des délibérations contre ce projet de la Poste. Et on commence aussi à le faire dans les communautés de communes et les communautés d'agglo. Et pour peu, moi j'ai fait voter celle par 37 maires de la communauté d'agglo de Bergerac. La première motion est sortie, elle a été votée dans ce sens-là. Je sais que toi, Gérard, que tu as vu le maire de Bergerac. Brigitte regardera de son côté sur mon pont. Ouais. J'espère que M. Lottery aime les services publics, parce que sinon, il le présentera pas, mais j'ai confiance quand même. Voilà, donc on est en train de bouger. Les maires sont sensibles. J'espère que ça va aboutir.
Et bon, vous appelez aussi la population peut-être à participer aux différentes initiatives qui peuvent être prises par les maires, comme celle qui a eu lieu il y a 15 jours à Saint-Léon.
Oui, mais bon, on attend déjà le retour du ministre, parce que je crois que ça va jouer un rôle. Si le ministre nous dit qu'il ne peut rien faire, ça va quand même. C'est là qu'on va intervenir, parce que c'est bien joli de dire qu'on va faire un agenda rural, c'est bien joli de dire que les services publics aujourd'hui se portent bien, alors que c'est pas vrai. Et puis bon, bien sûr, il y a M. Macron, mais il y a tous les antécédents. Les autres ont fait la même chose. Et puis bien sûr, je l'ai rappelé sur d'autres ondes, mais que font nos parlementaires ? Nos chers parlementaires qui, pendant la campagne des sénatoriales, on disait avec Brigitte en tant que candidat qu'on allait défendre ce sujet-là. Aujourd'hui, on les défend. Mais je ne vois pas beaucoup nos sénateurs et nos députés à la Chambre mettre en question ces problèmes des services publics. Donc ça veut dire que quelque part, c'est encore la politique politicienne. Et ces gens-là, ils sont au service de leur parti politique. Et bien sûr, c'est des décisions de groupe. Et quand un groupe décide de ne pas y aller, il n'y va pas.
Non, voilà, c'est déplorable.
Pour clôturer sur cette question-là, Brigitte, un dernier petit mot ?
Non, rien de spécial à part ça. Non, sur la Poste, c'est bon. Sur la Poste, on a fait le tour. Il faut aider nos services publics donc, à se maintenir.
Donc on va faire notre petite pause musicale. Et après, derrière, on attaque sur un deuxième service public, qui est celui de l'énergie.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres.
Donc on va revenir maintenant sur l'énergie, le projet Hercule. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, parce que les gens entendent un petit peu parler déjà, à la radio.
Déjà, ils ont bien choisi le nom. Disons que nous, on va être les Goliaths, quoi.
Parce et
que,
recule.
Voilà. Donc oui, le projet Hercule, alors ça concerne vraiment le service public qui est aujourd'hui EDF, c'est-à-dire les énergies. Et bien, sous couvert, mais ça, je ne suis pas convaincu des accords européens, EDF se prépare à scinder l'entreprise en deux parties. Deux parties principales. C'est-à-dire EDF bleu et EDF vert, ils appelleraient ça comme ça. C'est-à-dire bleu, il y aurait bien sûr tout ce qui est régalien, c'est-à-dire le nucléaire, il y aurait le transport, il y aurait tout ce qui, en définitive, coûte de l'argent serait encore sous le contrôle de l'État, mais tout ce qui est rentable, c'est-à-dire Enedis et surtout les énergies renouvelables, serait ouvert à la concurrence. À la concurrence européenne. Donc ça veut dire qu'encore des entreprises viendraient s'immiscer dans ces problèmes de l'énergie. Alors ça implique quoi? Un, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, et je pense que l'État n'a pas percuté par rapport à ça, ou alors c'est vraiment volontaire, c'est que les réseaux électriques, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent aux communes. Et donc ça voudrait dire que l'État, eh bien, du jour au lendemain, proposerait une loi en disant eh « on vous confisque les réseaux, et comme ça, le problème est réglé ». Or, les communes, pendant des années, grâce aux syndicats qu'ils ont créés, parce que les communes se sont regroupées par des syndicats départementaux, nous avons le SDE 24, se sont regroupées pour donner cette compétence à ces syndicats. Et aujourd'hui, en Dordogne, c'est 35 000 euros investis tous les gens par le syndicat, et c'est 35 millions d'euros investis par le syndicat et 30 millions d'euros investis par Enedis. Enedis, bien sûr, serait dans le lot de ceux qui seraient privatisés. Donc voilà, un petit peu, ça c'est quand même catastrophique, parce que dans ces 65 millions qui étaient investis sur la Dordogne, ça allait aussi bien à Saint-Pierre-de-Chignac ou à Saint-Barthélemy de Bellegarde qu'à Périgueux ou qu'à Bergerac. Ça veut dire que derrière, il y avait non seulement une péréquation de tarifs, parce que c'est pareil, un client qui habite Rouffignac de Sigoulès ou Bardoux, paye la même chose qu'un client qui habite à la ville de Bordeaux. Donc ça serait fini. Et puis la deuxième chose, comme je dis, c'est qu'un dépannage aujourd'hui, si ça fera exactement ce qui s'est passé avec France Télécom. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe en panne, je reprends l'exemple de Saint-Pierre-de-Chignac, il pourra attendre 3 ou 4 jours parce qu'il est tout seul et c'est pas rentable. Par contre, si une rue de Bordeaux tombe en panne, ceux-là, ils seront rétablis dans l'heure qui suit. Donc c'est encore une injustice. Et ce projet Hercule, il faut vraiment le combattre. Et ça, c'est qu'un détail, parce que derrière, il arrivera d'autres choses. C'est-à-dire, on commence à se rendre compte sur les énergies renouvelables qu'il y a beaucoup de sociétés, entre parenthèses, qui sont plus ou moins ici pour faire de la rentabilité, qui arnaquent ceux qui signent des contrats. Je pense qu'il vaut mieux passer par des services publics en énergie renouvelable qui sont contrôlés et qui ont un rapport, qui reviennent dans l'escarcelle des services publics. Voilà un petit peu ce que c'est le projet Hercule. Il y a toutes les incidences derrière.
Alors, hein. Comment on en est arrivé là? Tu peux peut-être dire un mot sur la question de la loi NOM, les nouvelles normes et sur l'AREN. Parce que bon, ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, EDF, par l'intermédiaire de la loi NOM, est obligé de vendre un quart de sa production à ses concurrents, ce qu'on n'a jamais vu, à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire aujourd'hui 42 euros le mégawatt. C'est-à-dire que quand le prix de l'électricité est très cher, les sociétés privées viennent acheter l'électricité à EDF pour ne pas payer cher et gagner beaucoup d'argent. C'est le début de ça.
Exactement, Gérard. D'ailleurs, quand tu m'as dit de parler de la loi NOM, j'ai essayé de me remémorer parce que c'est tellement loin. Moi, je suis à la retraite.
Attendez, vous êtes vrai... deux anciens d'EDF.
Voilà,
alors moi,
voilà,
dis donc, je suis perdu.
Oui, mais cette pauvre Brigitte, hein. Là, elle est perdue, c'est sûr. C'est normal, Brigitte, que tu sois perdue. Nous, moi, déjà, tu vois, la loi NOM, elle était loin derrière moi, mais Gérard a vite fait de me remémorer ce que c'était, mais par contre, j'ai très vite percuté que c'est vrai qu'aujourd'hui, EDF est obligé de racheter par rapport aux énergies renouvelables un kilowattheure en dessus de ce que lui paye sur son prix de revient, c'est-à-dire le kilowattheure nucléaire. Et c'était déjà un premier scandale à l'époque. Mais aujourd'hui, ça va s'accélérer. Et donc, on sera en plein là-dedans. Sachant aussi, il faut que les gens le sachent, c'est que sur leur facture d'électricité, cette nouvelle loi NOM, ils y ont inscrit ce qu'on appelle la TCFE. C'est une taxe qui va compenser justement le fait qu'EDF est obligé de payer plus cher l'électricité. Donc d'un côté, ces gens qui rentabilisent les énergies renouvelables, elle est payée d'une part par EDF et d'autre part par le contribuable. Ça, c'est encore pire.
Oui, et on voit le résultat depuis la mise en application d'une certaine privatisation de l'énergie et l'ouverture à la concurrence. Les chiffres sont tombés hier. Le prix de l'électricité et de l'énergie en 15 ans a augmenté de 50%.
C'est
pas fini. Donc ce qui pose aussi, pourquoi on aborde cette question, c'est aussi par rapport aux gens qui sont en situation très difficile, qui ont du mal à payer les notes d'électricité. Avec des augmentations comme ça, on va vers une précarité encore plus importante de nos habitants.
Mais ça va devenir catastrophique pour les gens, d'autant plus que, comme tu dis, l'électricité est montée en quelques années de 50%. Mais le pire, c'est que malgré que les gens économisent, parce qu'on leur apprend à économiser l'électricité, c'est-à-dire de ne pas mettre les appareils en veille, de mettre des ampoules LED parce qu'elles sont moins consommatrices, toutes ces choses-là, on leur explique. Mais quoi qu'il arrive, avec tous les nouveaux produits, il faut savoir que d'ici 2030, l'électricité, la consommation d'électricité va doubler. Ça veut dire quelque part que l'électricité, c'est devenu vraiment un produit de première nécessité. Et si vous n'avez pas l'électricité, ben tout le monde est perdu. Donc ça, c'est scandaleux. Ça devrait être considéré comme un produit de première nécessité. Et donc, pour les gens qui sont en difficulté, doivent être aidés dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, si on continue comme ça... on va être obligé, alors c'est plus difficile, mais on va être obligé de faire un deuxième resto du cœur, mais au lieu d'être pour manger, ça sera pour pouvoir s'éclairer.
En plus, on est en train d'axer les gens sur l'électricité, enfin les énergies renouvelables, qui ne suffiront pas à satisfaire la hausse de demande d'électricité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on pourra mettre toutes les éoliennes qu'on veut n'importe où. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Voilà, on est en train de nous induire quand même, je pense, enfin moi je parle d'éoliennes parce qu'ils veulent en mettre au-dessus du massif de la Double. C'est une incohérence, il n'y a pas de vent, 200 mètres de haut, qu'est-ce qu'on va aller mettre sur des massifs forestiers des éoliennes? Est-ce que c'est pour satisfaire le plan économique de sociétés qui se revendent tous les 4 ans et puis nous laisser des masses de béton dans la terre et des éoliennes à recycler dans 20 ans? y a un problème, quoi. Je veux dire, c'est pas des énergies qui sont aussi adaptées à notre consommation. Et si demain, on arrête toutes les unités nucléaires qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on pédale pour avoir de l'électricité.
Ah, mais c'est pas difficile. Je me rappelle d'une image à l'époque. C'est que si on mettait une éolienne, on faisait une transversale entre Lille et Marseille, ça représentait, vous voyez, ça en fait des éoliennes. Si on les sépare de 100 mètres chacune, ça en fait quelques-unes. Mmh. Mais la puissance de toutes ces éoliennes correspondrait à une seule centrale nucléaire. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait quadriller tout le pays d'éoliennes pour pouvoir remplacer ces centrales nucléaires.
On est en train de nous bourrer le chou sur les énergies renouvelables. Je ne dis pas qu'il n'en faille pas, au contraire. Le photovoltaïque, la marée motrice, l'hydro, tout ça, voilà, il en faut. Il y en avait, hein. Quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances dans les Pyrénées. Sur chaque ruisseau, tu avais des petites centrales, il y avait des productions. Maintenant, on a voulu tout enlever et monopoliser ça, et maintenant, on est en manque et c'est une servitude. Donc, à un moment, et à qui il faut racheter tout ça, à des prix...
Je crois qu'on est dans le cœur du débat.
Dans le cœur du débat.
Sur l'ensemble des services publics, parce qu'on va être obligé de clore l'émission.
Un de plus.